Je vois que vous en avez long à vous dire. Je vous encourage peut-être d'aller prendre un café après la réunion pour poursuivre la discussion. Je vous inviterai à reprendre vos places, s'il vous plaît. On va poursuivre cette série. On termine dans quelques semaines, je vous dirais, je crois, de mémoire, c'est dimanche prochain, on termine la série « Qui suis-je? ». Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour les premières fois, juste pour vous donner un petit aperçu de c'est quoi cette série « Qui suis-je? ». Dans le fond, on veut présenter différents noms de Dieu. Vous savez, Dieu a plusieurs noms à son actif. Et on veut aussi présenter certaines caractéristiques suite à ce nom. Donc, dans certaines situations, Dieu, à plusieurs endroits dans la Bible, a un nom particulier pour un moment particulier. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis déjà quelques semaines et ce que nous allons poursuivre jusqu'à dimanche prochain. Vous savez, à l'époque biblique, le nom est important. Le nom est souvent associé avec la personne, l'essence même de la personne. En d'autres mots, le nom exprime souvent la personnalité de la personne, à tel point que lorsqu'on connaît le nom, on connaît la personne intimement, personnellement. Et ce matin, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, votre nom en dit long. Votre nom représente quelque chose pour chacun d'entre vous. Vous êtes unique avec ce nom-là. Et si vous ne me croyez pas ce matin parce que vous avez l'air sceptique, je vous demande de juste aller voir tous vos professeurs. Vos professeurs, lorsqu'ils vous ont eu dans la classe, disent « Oh non, pas encore lui! » Parce que votre nom en disait long. Moi, je sais que, même j'en parle avec mon épouse, les Maximes, là, sont assez tannants, merci. Puis mon épouse est enseignante, puis tout ça. Et je sais que des fois, notre nom représente qui nous sommes. Et je sais, je suis convaincu que vous autres aussi, vous êtes une bande de tannants. Dans le tannant, puis cette semaine, je me mets ça au défi. Je vais aller voir chacun de vos professeurs, puis tout ça, puis je vais leur demander. Souvent, c'est pour ça que les professeurs, peut-être, s'arrachent les cheveux de la tête, peut-être qu'ils deviennent de plus en plus blancs. Peut-être demander à Mme Blanchette, qui est ici, qui est directrice à l'école d'eau vive, sûrement qu'il y a une couple de noms qui vous marquent. Mais ceci étant dit, ce matin, on va présenter un nom différent de Dieu que peut-être que vous connaissez, mais que j'aimerais vraiment décrire sa caractéristique. Et c'est dans le psaume 24 qu'on va lire ensemble. C'est David qui écrit ce psaume qui dit ceci. « Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Yahvé Sabaoth. » Répétez après moi, Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth, c'est l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire que dit David. David exprime ceci. Parce qu'il y a eu différentes expériences de bataille, de guerre. On voit ça dans l'Ancien Testament, le roi David et tout ça. Il est allé au front, il est allé en guerre. Et à chaque fois, il était stupéfait de voir que Dieu l'accompagnait dans ses aventures, dans ses batailles, dans ses défis, dans ses combats. Et c'est pour ça qu'il s'est exprimé, qui est ce roi? C'est donc bien merveilleux de savoir que ce roi, l'Éternel, marche avec moi dans mes batailles, dans mes défis, dans mes combats. Son nom est Yahvé Sabaoth. On va regarder ensemble qu'est-ce que veut dire spécifiquement ce nom Yahvé Sabaoth. À l'origine, ce nom a un sens guerrier et national. En d'autres mots, c'est un patriotisme. Dieu est un patriotisme. Il y a quelque chose en lui qui fait en sorte que c'est un guerrier. Il est nationaliste, il est patriotiste, il est en quelques mots souverain. Il est l'Éternel, le roi, il est souverain sur toutes choses. Et son nom veut dire, exprime plutôt, qu'il a la puissance, l'autorité, qu'il a la force d'accomplir plein de choses. D'accomplir des actions précises auprès de ses élus, auprès de ses enfants, auprès de son peuple, auprès de sa communauté, auprès de son Église. Et puisqu'il est souverain, c'est qu'il est capable de régir en main de maître sur tout ce qui concerne ses créatures. Il va au combat pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que David a exprimé, c'est ce que David avait compris ici. Il y a un auteur, Villumier, qui va dire ceci à propos de ce nom-là, qui dit que ce nom, Yahvé Sabaoth, sert à exalter Yahvé. Sert à exalter Dieu comme le puissant et victorieux défenseur de son peuple, comme son Dieu tutélaire. un Dieu protecteur, un Dieu qui est là pour chacun d'entre nous. Et dans le psaume 24, c'est ce que David avait expérimenté avec Dieu. Il était là pour le protéger, il était là pour le surveiller, il était nationaliste avec le roi David lorsqu'il partait en mission. Et s'il le fait pour David, il est capable de le faire pour toi spécialement ce matin. Dans tes combats, dans tes défis, dans tes batailles de ta vie. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Il y a ce Yahvé Sabaoth qui veut prendre le temps, qui veut te protéger, qui veut être le guerrier, qui veut se battre à tes côtés. Ça, c'est Yahvé Sabaoth. C'est l'Éternel des armées que David décrit ici spécialement. Mais en plus d'être puissant, en plus d'être protecteur, en plus d'être un guerrier, il y a une autre caractéristique qui vient s'ajouter à toutes ces caractéristiques-là. C'est qu'il est capable d'accomplir tout ce qu'il a promis. Comme Isaïe 14 le mentionne ici, au verset 24, il dit « L'Éternel des armées l'a juré en disant « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » En tant que Dieu, en tant que Yahvé Sabaoth, il a la puissance, il a l'autorité en lui d'accomplir tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a décidé de faire, peu importe nos situations, peu importe les défis qui sont devant nous. Dieu a des plans, Dieu a des projets, Dieu a des desseins et il veut les réaliser. Pourquoi? Parce qu'il est le Yahvé Sabaoth qui va amener à accomplissement toutes les promesses, tous les mots qu'il a dit, tous les mots qu'il a prononcés, il va l'emmener à son aboutissement. J'ai la chance de travailler avec dans les forces armées canadiennes et à côtoyer plusieurs officiers de haut rang, des majors, des colonels, etc. Et ce qui est intéressant, lorsque certains majors qui me parlent des missions des militaires à l'étranger puis tout ça, Afghanistan, etc. Je suis fasciné de voir comment que ça, tout le processus pour déployer des militaires. Nous, on pense que, écoute, c'est comme des Rambo puis qu'ils descendent dans l'hélicoptère avec une mitraillette puis ta-ta-ta-ta-ta-ta. Devant 200 000 soldats ennemis, on pense que c'est comme ça. Surtout Rambo, il n'y a aucune égratignure, il est toujours bien peigné, c'est toujours avec son gel. Ça marche pas comme ça. Ce qui est intéressant, lorsque les militaires, avant qu'ils soient déployés des mois et des mois à l'avance, c'est analyser, étudier où est-ce qu'ils vont être déployés. Ils étudient leur ennemi. Ils étudient comment qu'ils vont réagir. Ils étudient leurs mœurs, leur culture, leur langue. Et un coup qu'ils ont toutes reçu ces informations-là, ils remettent l'information à la chaîne de commandement. Et le général, avec tous ses adjoints et tout ça, donne des ordres spécifiques suite à la situation, suite au camp ennemi où est-ce que les militaires vont être déployés. Oui, il y a des risques à ça, mais les risques sont calculés. Et lorsque le major me parlait de cette situation-là, que les militaires étaient déployés, le processus qui était entamé, je pensais à Dieu, comment que Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu a des promesses, Dieu a des plans, Dieu a des projets, Dieu a des dessins, puis tout ça. Et ce qu'il a dit, il va le réaliser parce qu'il connaît l'ennemi, il connaît nos situations, il connaît le futur, il connaît tout ce qui va se produire dans notre vie. Il est en contrôle sur toutes choses. Et ça, c'est le Yahvé Sabaoth qui est décrit par le roi David, qui est toujours à ses côtés, qui est toujours à nos côtés, qui est toujours présent dans les différents combats, les différentes batailles de nos vies. On connaît tous l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller dans Exode 3. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant qui prend place avant que la délivrance puisse débuter. Et ça se déroule à la fin du chapitre 2, au verset 28, qui dit ceci. Dieu entendit leur gémissement, il entendit la douleur, il entendit le cri du peuple qui était esclave en Égypte. Et il se souvint de son alliance qu'il avait faite avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Et Dieu est intervenu. À cause de l'alliance qu'il avait établie avec les ancêtres, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, Dieu a intervenu auprès du peuple. Parce qu'il y avait une promesse qui avait été faite avec ces ancêtres-là. Il y avait quelque chose qui avait été établi. Il y avait une alliance qui avait été faite entre Dieu et ses hommes. Et à cause de ça, à cause de ses promesses, à cause de ce que Dieu avait dit, avait annoncé à ses hommes, Dieu est intervenu en Égypte. Et là, le processus de délivrance a débuté. On sait que Dieu a envoyé Moïse auprès du Pharaon, puis c'était difficile, les négociations et tout ça, parce que le Pharaon, il avait le cœur endurci. Il ne voulait rien savoir de perdre le peuple d'Israël et tout ça. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Dieu a commencé à se battre avec Moïse. Envoyer des plaies, envoyer des informations au Pharaon en Égypte pour dire, écoute, non, tu n'as pas choisi le bon clan, mon ami. Dieu est avec Israël. Et on connaît la fin de l'histoire. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et tout ça pour s'en aller au mont Sinaï, alors que c'était le plan de Dieu. C'était le dessein de Dieu de faire sortir ce peuple-là. À cause de quoi? À cause de l'alliance qui avait été établie. À cause de la promesse qui avait été faite avec ses hommes Abraham, Isaac et Jacob. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que Dieu a fait alliance avec toi aussi. Lorsqu'il a emmené Jésus à la croix, qui avait tout accompli à la croix puis tout ça, Dieu lui a dit, si tu acceptes cet accomplissement-là, si tu acceptes l'œuvre de Jésus à la croix, tu vas faire partie de mon côté, tu vas faire partie de mon clan, tu vas être mon enfant, tu vas être mon peuple. Il y a une alliance qui est établie entre toi et Dieu, peu importe le moment que ça s'est produit, si ça fait plusieurs années ou que c'est récent, il y avait une alliance. Et à cause de cette alliance-là, Yahvé Sabaoth marche avec toi. Il y a des plans pour toi. Il y a des projets pour toi. Il y a des dessins pour toi qu'il a déjà tout préparé d'avance. Dieu est de ton côté. Dieu se bat avec toi. Pourquoi? À cause de son alliance qui a tout mis en son Fils. Si un jour tu as fait de Jésus ton sauveur et ton Seigneur personnel, tu es chumé de même avec Dieu. Alors, peu importe les défis, peu importe les batailles, peu importe les combats que tu mènes présentement, sache que Dieu est à tes côtés. Le Yahvé Sabaoth qui était là avec David est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il est avec toi aujourd'hui en 2019, le 1er décembre 2019. Il est avec toi. Il marche avec toi. J'aimerais faire un parallèle ici de réaction face à un défi, le même défi que les deux ont rencontré. Et on connaît tous l'histoire de David et Goliath. Hein, David et Goliath, est-ce que tout le monde connaît? Oui. Mais ça, David et Goliath, on le met à toutes les sauces. Des équipes sportives qui est peut-être moins nantis que peut-être l'autre équipe. Ah, écoute, voici les David, ils vont se prendre contre Goliath. On le met, David et Goliath, c'est connu comme Barabbas en potion. Tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. Mais lorsqu'on regarde la situation, lorsqu'on regarde de plus près, qu'est-ce qui s'est passé? On se rend compte qu'il y a une réaction différente face à ce même combat, face à ce même défi. Deux réactions, complètement différentes. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble ce matin, ces deux réactions-là, pour qu'on puisse être capable de prendre peut-être éventuellement différentes manières de voir peut-être les différents défis qui sont dans nos vies. Dans 1 Samuel 17, ça dit ceci, « Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre à Israël. » Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté. Israël était complètement de l'autre côté de la montagne. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Et tout de suite après ce verset-là, on énumère qui est vraiment Goliath. C'est un homme qui mesurait au-dessus de 3 mètres. Il avait une taille de 3 mètres. Il était vraiment grand. C'était Tout un homme. Si aujourd'hui il avait existé, je suis pas mal sûr que ça serait un joueur de la NBA qui jouerait à défense. Defense, tout. Lui, il a juste à mettre sa main ici, il n'y a pas personne, il n'y a pas aucun ballon qui rentre dans le panier, mais peu importe. Il énumère aussi c'est quoi ses armes, il énumère c'est quoi sa cuirasse, il met même de l'information sur le poids de sa cuirasse, le poids de ses armes, c'est incroyable. C'est tout un homme de guerre, c'est un guerrier. Ça, c'est le défi, là. C'est le défi qui est devant eux. Regardez la suite, verset 8. Alors le Philistin, Goliath, s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves du roi Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, nous vous serons esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Goliath, un homme qui mesure 3 mètres, un guerrier, un homme de guerre, lance un défi au roi Saül et toute sa troupe. Saül avait confiance en lui. Il savait qu'est-ce qu'il allait faire. Il savait qu'est-ce qu'il était capable de faire. C'était lui qui était le défi. Et il essayait d'effrayer le peuple d'Israël. Il essayait d'effrayer le roi et également tout le peuple d'Israël avec toutes ses insultes, toutes ses injures qu'il lançait à Dieu et à tout Israël. Et bien entendu, c'est sûr que la taille de Goliath pouvait faire peur. 3 mètres, 9 pieds de haut, là, ça fait haut longtemps, là. OK? Tu te casses un coup, tu fais un torticolis, c'est sûr. L'ampleur du défi peut-être amenait une peur au niveau du roi et tout Israël. Il y avait quelque chose, il y avait une nervosité qui était tout à fait normale. Mais lorsqu'on regarde le texte plus spécifiquement, plus profondément, on s'aperçoit que le roi Saül et également tout Israël manquent de foi dans les promesses de Dieu. Pourtant, ce n'était pas la première fois que Dieu intervenait pour le roi Saül et tout Israël. À maintes et maintes reprises dans le passé, Dieu est intervenu lorsque Saül et tout Israël partaient en guerre. Et là, c'était pas, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, là. Dieu était encore le même, mais pourtant, devant ce défi, ils ont eu peur, ils ont été effrayés. Où est-ce que je veux qu'on porte l'attention alors qu'on va remettre la diapo? Le verset 9 et le verset 11. Parce que lorsque Goliath lance le défi, c'est pour assujettir, c'est pour rendre esclave l'ennemi. Si toi tu réussis à te battre, c'est moi qui vais être esclave, mais si c'est moi qui réussis à te battre, c'est toi qui vas être mon esclave. Et au verset 11, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Saül, le roi Saül et tout Israël entendirent ses paroles et c'est à ce moment-là qu'ils devenirent même esclaves à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'ampleur du défi, la grandeur peut-être du guerrier, ça les a figés. Et souvent, des fois, des défis qui sont devant nous, nous figent. Un peu comme ça. Il y a plein de choses qui prennent place, puis tout ça, puis on est figé, on est assujetti. Et l'apôtre Pierre va en parler dans sa deuxième lettre, et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble, parce que ça a un lien direct avec mon histoire. L'apôtre Pierre va dire dans la deuxième lettre à Pierre, au chapitre 2, verset 19, « Chacun est esclave de ce qui le domine. » Et ici, Israël et le roi Saül étaient dominés par la peur, par la peur du défi, par la peur de la taille du guerrier, par l'ampleur de tout ce qui prenait place, tout ça. Ils étaient figés. Ils étaient dominés. Et ce n'était que le défi. Il n'y avait pas personne dans la gang qui s'est essayé de confronter le Philistin. Mais à cause des paroles, ils ont été figés. Et souvent dans nos vies, c'est la même affaire. Souvent, on est dominé. Ça se passe ici. C'est tout psychologique. On a vu Dieu intervenir à maintes et maintes reprises dans nos vies. Et là, un nouveau défi devant nous, c'est comme, il y a une peur, il y a quelque chose qui s'installe. Et ce matin, il y a peut-être des géants que tu fais face ce matin. Des géants de peur, d'inquiétude. Peur, inquiétude de peut-être de ton avenir. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? C'est quoi le travail que je vais faire? Ça fonctionne pas. Peut-être qu'à ton travail, il y a des changements au niveau de la gestion puis tout ça, puis ça te met une pression. Il y a une peur qui s'installe. Peur peut-être suite à la maladie que tu viens d'avoir la nouvelle dernièrement. Il y a des peurs qui prennent place, il y a des inquiétudes qui prennent place. Peut-être au niveau de ta famille, de ton couple, de ton foyer. Il y a peut-être des décisions que vos enfants ont prises, puis là, ça vous met une pression, il y a une peur, il y a une inquiétude qui prend place. C'est peut-être au niveau de tes études ce matin. Ou est-ce que de plus en plus, ça prend des super cotes pour passer à un autre niveau, la cote R. J'ai peur, je vais être inquiet, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas ma cote R. Qu'est-ce qui va arriver à mon avenir? C'est peut-être quelque chose au niveau de la culpabilité, de la honte. où est-ce que tu as fait des erreurs dans le passé. Et que ces erreurs-là, ils prennent toujours, ils sont toujours dans tes pensées, ils sont dominés dans tes pensées, puis tout ça, et tu deviens esclave de cette honte-là, de cette culpabilité-là. Tu te sens responsable des gestes que tu as peut-être commis dans le passé. Et tu as de la difficulté à y faire face. Tu as de la difficulté d'avancer. C'est peut-être au niveau du rejet, de l'isolement. Peut-être que tu disais, j'aimerais ça être en relation, mais je sens qu'il n'y a pas personne qui m'aime. Tu te sens seul avec toi-même. C'est un géant pour toi. Chaque dimanche, tu remets cette situation-là à Dieu, pensant que ce dimanche suivant, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et tu pars de l'église, tu es encore déçu, parce que tu te sens seul avec toi-même. C'est peut-être un péché, une tentation que tu es en train de battre, d'avoir dans ta vie. C'est des géants pour toi. Tu te bats avec un péché qui est caché, puis tout ça, puis tu aimerais tellement t'en sortir, puis t'essayer de tes propres forces, t'essayer de tes propres moyens, et ça fonctionne pas. Tu es toujours en train de recommencer, en train de chuter, en train de dire, ben je vais faire ça de telle façon, puis à un moment donné, le découragement prend place dans ta vie. C'est ce qui te domine présentement, et tu deviens esclave de ça. Ça, c'est tes géants à toi. C'est tes géants qui prend place. Mais David va nous montrer une façon de faire. Une façon de faire au même défi que le roi Saül a eu et tout Israël a eu pour le même défi. Et on regarde dans 1 Samuel 17, on voit la réaction de David. David va dire ceci, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec ton épée, avec ta lance, avec ton javelot, comment tu es, même de grande taille, mais moi, sais-tu quoi? Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je marche contre toi. À mes côtés, le Yahvé Sabaoth est avec moi. La puissance, la souveraineté, l'autorité de Dieu est à mes côtés. Toi, tu marches avec comment? Tu essaies de m'impressionner? Tu es un géant, tu essaies de m'impressionner? J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Parce qu'à mes côtés, j'ai Yahvé Sabaoth. Et tu sais pourquoi que David va dire ça? Parce que David, à maintes et maintes reprises dans son parcours de vie, il a expérimenté sa marche avec Yahvé Sabaoth. Il a expérimenté Dieu à maintes et maintes reprises. Alors même si c'est un nouveau défi, même si le gars mesure 3 mètres de haut, on s'en fout. Moi, j'ai déjà expérimenté certaines expériences avec Dieu, certains moments avec Dieu. Et peu importe le défi qui est devant moi, je connais, je sais qui est mon Dieu, je sais qui est mon Yahvé Sabaoth qui est là. Lorsqu'il promet quelque chose, je sais qu'il va le réaliser. Je sais qu'il se bat avec moi et pour moi. Peu importe les situations. Et souvent, on voit David ici qui va exprimer au roi lorsqu'il était berger. Lorsqu'il prenait soin du troupeau de son père et tout ça, ça dit que l'ours venait, le lion venait. Et qu'est-ce que David faisait lorsque le lion, l'ours venait pour prendre la bête, prendre la brebis? Ça dit qu'il courait. Il courait après la bête. Il était fou, vraiment. C'était un fou braque, là. En tout cas, c'était un autre temps. Il courait après lui. Il prenait la bête. Il arrachait de la gueule et tout ça. Puis il tuait la bête. C'est ce que David faisait lorsqu'il était dans le champ. Lorsque le fauve venait pour vraiment dévorer David, qu'est-ce que David faisait? Il courait après le fauve, il prenait après le chignon, puis il te le mettait à terre, puis il te le battait. Vous irez voir dans 1 Samuel 17, verset 34, c'est ce que David va raconter au roi Saül. En d'autres mots, ce qu'il est en train de faire, c'est que quand j'étais dans le champ, à certains moments dans ma vie, j'ai expérimenté le Yahvé Sabaoth. J'ai su qu'il y avait Sabaoth lorsqu'il y avait un défi devant moi, une bataille, un combat. Il y avait l'ours, il y avait la fauve, il y avait le lion. Il y avait Sabaoth, il était à côté de moi. Alors même s'il y a un autre défi, ça ne me dérange pas. Parce que je connais qui est mon Dieu. Je connais que le Yahvé Sabaoth prend soin de moi. Il est souverain sur toutes choses. Il est mon guerrier. Il est l'Éternel des armées parce qu'il est là pour se battre à mes côtés. Et peu importe le défi, c'est sûr que je vais le rencontrer, puis c'est sûr que je vais l'affronter. Et ce matin, c'est la même affaire pour vous. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où est-ce que vous avez expérimenté Dieu? Des moments où est-ce que vous avez prié Dieu, puis que Dieu a répondu à vos prières? Des moments où est-ce que vous avez demandé à Dieu d'ouvrir une porte pour un emploi, pour quelque chose, peu importe la situation, Dieu a répondu. Pour une fois, où est-ce que vous avez demandé, « Seigneur, je ne suis plus capable, j'ai trop d'épreuves, j'ai trop de combats, je ne serais pas capable de continuer. » Puis Dieu a répondu, il a envoyé quelqu'un à côté de toi pour te supporter, pour prier pour toi. Est-ce que ça a déjà arrivé à maintes et mêmes reprises dans ton parcours de vie? Si la réponse est oui, alors même le nouveau défi, Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est capable d'agir de la même façon qu'il l'a fait dans le passé. Et c'est ça que nous, en tant que croyants, on doit mettre notre foi en Dieu. Parce que ce Dieu-là n'a pas changé. Un iota. J'aime beaucoup dans Deutéronome 28, c'est Moïse qui va écrire les bénédictions et les malédictions. Puis il va écrire au début, voici bénédiction pour tous ceux qui marchent avec Dieu. Et une de ces des bénédictions qui va prendre place dans Deutéronome 28, c'est au verset 7, qui dit que celui qui marche avec moi, ben Dieu va combattre à ses côtés. Ça dit, Deutéronome 28, verset 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. » Ça, c'est une promesse que Dieu t'a faite, que Dieu m'a faite. Si je marche avec Dieu, si je mets ma foi en lui, si je sais que Dieu est fidèle, c'est sûr que mes ennemis ne pourront pas rien faire. Si on poursuit le verset, c'est quand même assez drôle. S'il y a un ennemi qui vient, il va sortir contre toi par un seul chemin, mais c'est par sept autres chemins qui s'enfuiront devant toi. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Parce que sa puissance, parce que sa force est en toi. Fait que même si j'ai un ennemi qui vient, c'est bien de valeur, mais qui voit Dieu à côté de moi, pouh! Il va prendre la fuite par sept chemins. Alors, peu importe le défi, peu importe ce qui se présente devant toi, peu importe le géant, peu importe ce qui domine dans ta vie, qui te rend esclave, Yahvé Sabaoth est à tes côtés. Il a fait alliance avec toi. Vous savez, notre plus grand défi à tous, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus lorsqu'il nous arrive des situations difficiles. Moi, le premier. C'est difficile parce que là, la peur nous envahit, l'inquiétude nous envahit, plein de choses qui brassent à l'intérieur de nous. On a de la difficulté. Je ne suis pas de renier la peur, renier l'inquiétude, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ne pas rester dedans. C'est ça qui est la différence. C'est ne pas se cacher derrière un rocher et dire hey, « Goliath, es-tu encore là? Géant, es-tu encore là? » Non, non. C'est d'essayer de faire face comme David a fait face aux défis qui étaient devant lui. La peur est normale. Mais rester dans la peur, ce n'est pas normal. Et lorsqu'il nous arrive des combats, des situations difficiles, notre plus grand défi, c'est de garder les yeux sur Dieu, sur Jésus. C'est bien beau avoir plein de connaissances, mais ce qui est important, c'est d'avoir la foi en Dieu. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Je termine avec... Non, je ne dis pas ça parce que je vais avoir deux, trois conclusions, là. Suivez-moi. C'est le plus simple de même. Il y a une citation ici que j'ai prise sur le site Adore Dieu qui dit ceci, « Tant que tu sais que Dieu est avec toi, cela n'a pas vraiment l'importance de savoir qui est contre toi. » Et j'aime cette citation-là parce que ça reprend un peu ce que l'apôtre Paul va dire dans Romains 8. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Ce qui est intéressant à la fin du chapitre Romains 8, puis tout ça, à la fin du chapitre, il dit qu'il n'y a rien qui peut me séparer de son amour. Ni la vie, ni les difficultés, puis tout ça, parce que Dieu est avec moi. Dieu a fait une promesse. Il a fait une alliance avec moi qui serait toujours avec moi jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est avec moi. Alors que les musiciens vont commencer tout doucement à jouer. J'ai une petite histoire à vous raconter. J'aime les petites histoires. Alors que j'étais en train de préparer le message, j'ai tombé sur un officier qui est quand même assez haut gradé, puis tout ça, qui a été capturé lors des camps de la mort, camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était quand même un officier assez important. Et alors qu'il avait été capturé par les Allemands, qu'il avait été emprisonné, qu'il avait été battu, qu'il avait été vraiment flagellé, peu importe s'il y a vraiment des détails horribles là-dedans, il y a quelque chose comme année qui s'est passé vers avril 1945, parce qu'en avril 1945, les camps de concentration, ça commençait à diminuer, puis il y a quelque chose qui a commencé à prendre place. Et en avril 1945, cet officier américain de haut gradé, il a entendu parler qu'il y avait que les alliés américains s'en venaient. Il y a une rumeur qui circulait dans le camp qui disait que les Américains venaient pour les délivrer. Et lui, il a pris ça à la lettre. Il dit, faut que je fasse de quoi? Il dit, faut pas que j'attende, faut que je fasse de quoi? Il y a un défi devant moi, mais faut que je fasse de quoi? J'ai entendu une rumeur et je vais le prendre au pied de la lettre. Alors, il a décidé d'aller voir le chef du camp de concentration, puis il l'a mis au défi. Il a dit, étant l'officier le plus haut gradé, et je sais qu'il y a une rumeur qui circule présentement, que les alliés américains s'en viennent ici pour nous délivrer. Et étant donné que je suis l'officier le plus haut gradé, je vous demande de rendre les armes. Il dit ça directement au chef du camp de la mort. Dit, je vous demande de rendre les armes, d'être désarmé puis tout ça. Et vous allez demander à toutes les personnes, les soldats qui sont à côté de vous d'être désarmés et que c'est moi maintenant qui prends en contrôle le camp. Et à sa grande surprise, le chef du camp a accepté. Peut-être que lui ici avait entendu dire que les Américains s'en venaient, qu'il n'a peut-être pas pris de chance. Peu importe, l'histoire ne le dit pas. Mais il a décidé de se soumettre à l'officier haut gradé. Et alors, ils ont tout enlevé les armes et tout ça. Et il a fait en sorte que tous les Allemands, ils ont été dans une baraque, ils ont été mis dans une pièce. Puis, cet officier-là, avec d'autres Américains qui étaient présents, qui étaient prisonniers à l'époque, ont pris le contrôle de ce camp. Et lorsque les Alliés sont arrivés, ils ont fait le saut parce que tout était clean, tout était discipliné, tout était sous le contrôle déjà de cet officier haut gradé américain. Tout ce qui restait à faire, c'est de s'occuper au niveau sanitaire. Et quand je lisais cette histoire-là, je me disais, il y avait sa botte, c'est la même affaire. J'aime l'histoire de cet officier, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris position. Il a pris sa démarche. Il a fait une démarche vraiment certaine, de pleine conscience, puis tout ça. Il a entendu une rumeur. Et suite à la rumeur, il a décidé d'y croire et de prendre position. Ça m'amène à te dire que des fois, les rumeurs, c'est les promesses de Dieu. Des fois, on lit notre Bible, on la lit rapidement. Je travaille à 8 heures. Je suis pressé. Mais il y a des promesses là-dedans. Il y a des pépites d'or. C'est des rumeurs. Mais si je les prends au pied de la lettre, ils peuvent faire tout un impact dans ma vie. Ils peuvent m'aider à affronter les défis que je rencontre, les géants que je rencontre. Ils peuvent me libérer de l'esclavage. Parce que beaucoup de croyants, même s'ils ont Jésus dans leur vie, sont prisonniers, sont enfermés par des mauvaises habitudes, par le péché. Sont enfermés, ils ne vivent pas la pleine liberté qui est possible en Jésus-Christ. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'officier américain avait pris position d'agir. David avait pris position d'agir. Et ce matin, c'est à notre tour d'agir. Suite à cette bonne nouvelle que, en Jésus-Christ, nous sommes libérés. En Jésus-Christ, les géants peuvent tomber. En Jésus-Christ, on peut être libéré de tout esclavage, de toute domination qui prend place dans nos vies, dans nos pensées. En Jésus-Christ. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ce matin, je termine vraiment, c'est vraiment vrai. Je termine avec Agé 2, qui est un prophète de l'Ancien Testament, qui va dire ceci. Il dit, car je suis avec vous. Il parle de la part de Dieu. Il dit, je suis avec vous. C'est Dieu qui te parle présentement. Je suis avec toi. Dit l'Éternel des armées, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec, mets ton nom, avec Maxime, avec Julie, avec Lucie, avec Martin, avec Jérôme, avec Frank. Mettez votre nom, parce que Dieu a fait alliance avec toi un jour. Il ne te laissera jamais tomber. Peu importe les combats que tu vis, peu importe les batailles qui sont face à toi, aie la foi en Dieu. Aie confiance que Dieu est avec toi dans ces batailles-là. Vous savez, devant le défi, on a deux façons d'agir. Et je termine vraiment bientôt. On peut agir comme Saül et toute son armée, qui devant le défi, on va se cacher, on va avoir peur. Et c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est normal d'avoir peur. Mais si on reste sur notre peur, on est esclave. quelque chose qui nous domine. Où on peut être comme David, de dire, Dieu, dans ces moments-là, dans ma vie, je me souviens à telle date. Dieu m'a délivré. Dieu a répondu à ma prière. Dieu a ouvert une porte. Dieu a agi de telle façon. Même quand, lorsque je ne l'attendais pas, Dieu est intervenu. Je n'ai jamais rien demandé, puis il l'a fait pareil. Et je me souviens de ces moments-là, et il est capable encore de le faire aujourd'hui en 2019, devant ce défi qui est devant moi. Amen. J'aimerais ça que vous puissiez vous lever. Fermez les yeux quelques instants. Ce matin, je veux vraiment faire un appel spécifique. Peut-être que ce matin, tu as des géants dans ta vie. Peut-être que ça fait longtemps que tu te bats avec ces géants-là et tu ne trouves pas le moyen de t'en sortir. Ça domine tes pensées, ça domine vraiment ta vie. Ça t'empêche d'avancer en tant que personne, en tant que croyant. Ce matin, je veux prier pour toi. Il va y avoir une équipe de prière qui va être là, qui va se présenter avec moi. Je veux vraiment prendre le temps de prier pour toi ce matin. Prier pour que Dieu puisse te montrer ou te remontrer qu'il est présent dans ta vie. Te montrer qu'il est fidèle. Peu importe ta bataille, peu importe ton défi, peu importe ta situation, Dieu est fidèle. Il a fait une alliance avec toi. Et peut-être que tu t'en souviens plus parce que tes yeux sont axés sur ton combat, sont axés sur ton géant présentement. Et tu ne vois plus Dieu dans ta situation. Et ma prière pour toi ce matin, ça va être juste de peut-être, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux afin qu'il te voie. Afin qu'il puisse expérimenter à nouveau ce sentiment de fidélité de la part de Dieu dans ta vie. Ça va être ma prière pour toi ce matin. Et alors que les musiciens vont jouer tout doucement le dernier chant, j'aimerais juste vous inviter à vous approcher en avant parce que je veux prendre le temps de prier pour toi ce matin.